temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Le Monde aujourd'hui, chez Rubin Dorcil et Bagassi Koura à Washington. Bienvenue à l'écoute de VOA Afrique, les grands points de l'actualité.
Au Burkina Faso, la justice a été saisie pour la réouverture du dossier Norbert Zongo.
Retour. Retour de Moïse Katumbi dans le Katanga. L'homme le plus riche de la RDC va-t-il briguer le fauteuil présidentiel? Reportage à suivre de notre correspondant à Lubumbashi.
Retour ce soir sur l'arrestation de trois proches de Charles Konan Bani, ex-président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation en Côte d'Ivoire.
C'est Noël à Bangui, un an après la terreur des Séléka et des Antibalaka. Comment les fidèles chrétiens vivent-ils la fête? Nous vous emmènerons dans la paroisse Saint-Charles Louanga, non loin de la capitale centrafricaine.
Le calme n'est pas totalement revenu sur la totalité de la République centrafricaine, au moins dans cette zone de Beugwa qui était la zone rouge, on est un peu mieux maintenant.
Et nous aurons comme d'habitude notre page économique, les sports et la musique, mais d'abord le journal.
16 ans après l'assassinat de Norbert Zongo, ce journaliste, donc le 13 décembre 1998, la justice burkinabé a été saisie pour la réouverture de ce dossier sensible. Ils mettent en cause des proches de l'ancien régime de Blaise Compaoré, chassé du pouvoir fin octobre. Nous avons recueilli la réaction d'Ambroise Farama, l'un des avocats de la famille Zongo.
Être content à ce stade de la procédure, ça sera prématuré. Parce qu'une chose est d'ouvrir, donc de réouvrir le dossier, mais une autre chose est de pouvoir donner tous les moyens à la justice de pouvoir faire un travail en toute indépendance et en toute quiétude. Donc pour nous, c'est vrai, c'est déjà bien qu'on puisse donc coordonner la réouverture du dossier, parce que nous avions toujours pensé que ce dossier ne pourrait pas être clos, et que même depuis qu'il a été clos, il y a eu donc des possibilités de le réouvrir. Donc il n'y a pas lieu donc d'être particulièrement satisfait. Mais nous tenons acte du fait qu'effectivement aujourd'hui le gouvernement donc ait demandé la réouverture de ce dossier et nous allons rester vigilants pour avoir une bonne suivi de ce dossier.
Ambroise Farama, l'un des avocats de la famille Zongo.
Le procès de l'ex-président du Parlement du Niger et opposant Amadou Hama et d'une vingtaine de personnes, dont son épouse, impliquée dans un présumé trafic international de bébés, s'ouvrira le 2 janvier à Niamey. C'est ce que rapporte l'AFP, citant Mossi Boubacar, avocat de l'épouse de M. Amadou. Celle-ci ainsi que d'autres détenus ont été mis en liberté provisoire hier après avoir passé plusieurs mois en prison. L'ex-président du Parlement, principal opposant au chef de l'État Mahamadou Issoufou, a quitté le Niger fin août après l'autorisation par les députés de son audition par la justice dans cette affaire de trafic de bébés entre le Nigeria, le Bénin et le Niger. Il est actuellement en fuite en France.
Épidémie d'Ebola, un quatrième membre de la MINUN, la mission des Nations Unies au Libéria, a été admis dans un centre de traitement d'Ebola après avoir contracté le virus. Information de l'organisation rapportée par l'AFP, aucune précision n'a été fournie sur l'identité de la personne contaminée, sa nationalité, son statut, les circonstances dans lesquelles elle a contracté le virus ou le centre où elle a été admise. L'épidémie Ebola a fait plus de 7500 morts en un an, essentiellement au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée.
En Inde, la police a tiré sur des manifestants qui protestaient ce mercredi dans l'état d'Assam, dans le nord-est du pays, après la mort d'au moins 52 personnes dans une série d'attaques dont la responsabilité est imputée aux séparatistes du Front démocratique national de Bodoland, Jacques Aristide.
5 personnes ont été tuées ce mercredi dans les affrontements entre forces de sécurité et manifestants. Des centaines de cueilleurs de thé munis d'arcs, de flèches et projectiles sont descendus dans la rue malgré le couvre-feu décrété dans l'état d'Assam après les attaques à l'arme à feu perpétrées en 4 lieux mardi par les rebelles du NDFB. Les victimes, dont au moins 10 femmes et 13 enfants, étaient pour la plupart des cueilleurs de thé originaires d'autres parties de la Grande Péninsule. Les forces de sécurité indiennes ont lancé le mois dernier une offensive contre le NDFB, mouvement illégal qui revendique la création d'un foyer national pour le peuple Bodo. Au cours des années écoulées, les Bodo ont commis plusieurs raids sanglants contre les musulmans et les membres de la tribu Adivasi. Les attaques de mardi ont dû être déclenchées par des radicaux du NDFB opposés au pourparlers en cours entre le gouvernement fédéral et une faction modérée. Le premier ministre indien Narendra Modi a dénoncé des actes lâches et dépêché sur place son ministre de l'Intérieur.
crise ukrainienne. Nouveau pour parler aujourd'hui entre les représentants de l'Ukraine, de la Russie, des rebelles pro-russes et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. L'objectif de cette rencontre en Biélorussie est de consolider un cessez-le-feu conclu il y a 3 mois, engager le retrait des troupes et armes lourdes et effectuer un échange de prisonniers et faciliter la livraison de l'aide humanitaire dans l'est de l'Ukraine. Kiev a encore une fois appelé les séparatistes à respecter les engagements pris à Minsk en septembre.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les militants de l'État islamique ont capturé un pilote jordanien dont l'avion a été abattu par le groupe lors d'une mission de combat en Syrie. L'armée jordanienne a fait savoir aujourd'hui dans une déclaration qu'elle tient le groupe pour responsable de la vie et de la sécurité du pilote. Selon l'Observatoire syrien des droits humains, les djihadistes ont descendu l'avion près de Raqqa, leur bastion en Syrie. La Jordanie, Bahreïn, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis prennent part à la campagne aérienne menée par les États-Unis contre l'État islamique en Syrie et en Irak.
Le président de l'Allemagne, Joachim Gauck, a rendu hommage aujourd'hui à ses compatriotes qui sont prêts à accueillir des réfugiés et s'est dit heureux que la plupart d'entre eux ne veuillent pas isoler l'Allemagne. Il faut dire que ces derniers temps, le développement du Pegida, un mouvement anti-islam dans une ville de l'Est, inquiète nombre de gens en Allemagne. Félix Yepassis Zembro.
Le président allemand n'a pas mentionné directement les manifestations de dread organisées par le Pegida, européen patriote contre l'islamisation de l'Occident. Mais il a souligné que la société a besoin du respect mutuel de ses citoyens chaque jour qui passe. Selon l'agence AP, les membres du Pegida soutiennent qu'ils ne sont que contre l'extrémisme et non pas les émigrés ou l'islam lui-même. Mais ces manifestants ont reçu le soutien de groupes d'extrême droite, ce qui fait craindre une montée de la xénophobie en Allemagne. Et l'AFP annonce que l'opposition s'organise contre ce risque et que patronat et simples citoyens montent au créneau contre la vague populiste qui gagne le pays et défendent l'immigration au nom de la morale et de l'économie. Le nombre de manifestants à Dresde, une région qui a très peu d'immigrés ou de musulmans, est passé de quelques centaines en octobre à 17 500 lundi dernier. Les groupes similaires n'ont pas drainé autant de monde ailleurs dans le pays, où il y a eu aussi de grandes contre-manifestations de ceux qui rejettent leur xénophobie.
Ici aux États-Unis, un jeune noir de 18 ans a été abattu ce matin par un policier dans une station-service de Berkeley, dans la banlieue de St. Louis, Camille Grosdidier.
Berkeley est un quartier proche de Ferguson, autre banlieue de St. Louis, où début août, un policier avait tué par balle Michael Brown, un autre adolescent noir. L'incident avait déclenché plusieurs nuits d'émeutes et de multiples manifestations, parfois violentes, dans nombre de métropoles du pays. Dans un communiqué, un porte-parole de la police du comté de St. Louis a précisé qu'un agent qui s'était rendu dans une station-service pour un contrôle de routine a vu deux hommes approcher. L'un d'eux aurait pointé un revolver en direction de l'agent. Craignant pour sa vie, ce dernier aurait tiré. L'autre homme aurait pris la fuite. Selon le quotidien St. Louis Post-Dispatch, le jeune noir serait un certain Antonio Martin. Sa mère a déclaré à la presse que la petite amie de son fils avait offert une autre version de la tragédie. « Elle m'a dit qu'ils sont allés dans un magasin, qu'ils marchaient quelque part. Ils marchaient et la police, je présume qu'il a initié quelque chose, et la police a tiré », a-t-elle déclaré.
Beaucoup plus d'Américains ont de quoi dépenser pour les fêtes de fin d'année. Le nombre de personnes ayant besoin d'assistance chômage a chuté de 9 000 la semaine dernière pour atteindre 280 000 selon le département du travail. Un autre rapport hier a fait état d'un taux de croissance de 5% au troisième trimestre, tandis que le chômage est à son niveau le plus bas depuis plusieurs années à 5,8%. Aujourd'hui, le gouvernement américain a publié un rapport indiquant une croissance des réserves pétrolières, ce qui a provoqué une nouvelle baisse des prix de l'or noir.
L'ancien président George Bush, le père du prédécesseur de Barack Obama, a été admis ce mercredi dans un hôpital de Houston au Texas, dans le sud-ouest du pays. Selon un porte-parole, il avait de la difficulté à respirer. En décembre 2012, le 41e chef d'État américain a été hospitalisé pour un cas de bronchite. La famille Obama, en vacances à Hawaï, lui a formé des vœux de prompt rétablissement.
C'est la veille de Noël et le monde chrétien est déjà en fête, mais à Bethléem, lieu de naissance de Jésus selon la Bible, les festivités ont commencé par des affrontements entre la police et une fanfare. Le patriarche latin de Jérusalem, Fouad Toile, a dû être évacué loin d'une foule massée près de l'église de la Nativité. La police palestinienne a renforcé sa présence dans la ville où des dizaines de milliers de pèlerins sont attendus pour la fête. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, la Minute Éco ce soir avec Jean-Roger Bion. Bonsoir Jean-Roger.
Bonsoir Gabi.
Près de 38 milliards de francs CFA injectés dans le secteur énergétique au Cameroun afin d'améliorer le réseau électrique.
Et c'est le concessionnaire du service public de l'électricité Energy of Cameroun qui fait cette promesse d'investissement au cours de l'année 2015. Sur cette enveloppe globale, l'entreprise prévoit de consacrer 10 milliards de francs CFA aux travaux de réhabilitation des centrales hydroélectriques DDA de Songloulou, toutes les deux dans la région du littoral, et celle de Lagdo dans le nord du pays.
Au Sénégal, la réhabilitation de la route Touba-Dara-Linguère sera financée par le Fonds cohétien de développement.
Et les cohétiens ont accordé à cet effet une enveloppe de 18 milliards de francs CFA au Sénégal. La signature de l'accord de financement a eu lieu entre le ministre de l'Économie et des Finances et le monsieur Amal Al-Omar, le directeur général adjoint du Fonds cohétien pour le développement économique en Afrique. La réhabilitation de la route Touba Dara-Linguère est un projet phare du plan Sénégal émergent. Il s'inscrit également dans le cadre du programme prioritaire de désenclavement des différentes localités du pays afin de faciliter les échanges économiques et sociaux au niveau national.
Parlons de la Côte d'Ivoire où la production d'or est passée de 7 tonnes en 2009 à 15,4 en 2013.
Et pour y arriver, le gouvernement ivoirien a augmenté le nombre de permis pour la recherche des mines. Quelques 140 permis ont été ainsi délivrés, dont 8 pour l'or et 3 pour le manganèse. Les résultats ne se sont pas fait attendre. La production d'or est passée de 7 tonnes en 2009 à 15,4 tonnes en 2013, selon le ministre de la Poste et des Technologies de l'Information, M. Bruno Kone, par ailleurs porte-parole du gouvernement, qu'il a annoncé à l'issue du Conseil des ministres présidé par M. Alassane Ouattara, président. Le gouvernement a en vue 18 tonnes pour l'année 2014 avec la mise en exploitation de la mine d'Angovia. C'est à Boisflay dans le centre-ouest, la plus grande mine d'or du pays, d'après le porte-parole du gouvernement ivoirien.
Voilà pour la Minute Éco de ce mercredi. Merci Jean-Roger Bion. Nous passons tout de suite, Bagassi, à la page sport. Un Camerounais pour remplacer Albert Ebossé dans l'attaque de la JS Kabylie en Algérie.
Oui, l'attaquant Gaël Grégoire Nkama a signé pour 2 ans avec le club algérien. C'est ce qu'on apprend de la presse algérienne citée par l'AFP. Il remplacera son compatriote Albert Ebossé. Ce dernier est décédé fin août au stade de Tizi Ouzou à la fin d'un match perdu à domicile par la JSK. Selon la version des médecins algériens, défendu par le club, Ebossé a été tué par un objet tranchant lancé des tribunes. La contre-autopsie camerounaise conclut à un décès des suites d'une agression brutale avec polytraumatisme crânien lors d'une risque dans les vestiaires. Après la rencontre, la famille annonce avoir porté plainte devant la FIFA.
En NBA, à la faveur de Noël, LeBron James, King James, retrouve demain le Miami Heat et ses supporters.
Oui, 5 mois après son départ de Miami, LeBron James retrouve le club floridien et ses supporters qui n'ont toujours pas digéré son départ pour Cleveland. C'est le match le plus attendu avec un seul joueur en vedette. LeBron James.
Et ce n'est pas le seul choc, Bagassi.
Oui, comme le veut la tradition, et depuis 1947, la Ligue nord-américaine de basketball profite de Noël et d'un calendrier sportif quasi désert aux États-Unis pour monter des chocs alléchants comme ceux qui opposeront le champion San Antonio Cherubin à OKC, Oklahoma City, réédition de la finale de la Conférence Ouest de 2014, ou encore les Clippers de Los Angeles à Golden State Warriors, deux franchises californiennes qui visent le titre.
Et je ne veux pas m'ennuyer du tout, Bagassi Koura, quand les Spurs sont sur le plancher. On reste toujours à NBA pour parler cette fois des résultats de la nuit dernière.
Eh bien, le beau cadeau de Noël de Cleveland, hein, on en parlait déjà, à ses supporters, victoire 125-104. Face à Minnesota, victoire à Washington, des Bulls de Chicago, 99-91. Il faut dire, on n'arrive pas toujours à avoir un club très tranchant ici à Washington.
Mais l'équipe a bien joué jusqu'à présent cette année, il faut le dire.
Ben, il faut ramener la coupe. Hein. Et autre victoire à l'extérieur, celle de Philadelphie à Miami, 91-87. Phoenix bat Dallas 124-115. Et Cherubin Denver chute face à Brooklyn, 102-96.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Du studio 13 à Washington, chez Rubin Dorsil
et Bagassi Koura,
en votre compagnie pour cette édition du 24 décembre 2014. Place au dossier du jour.
Oui, c'est Noël, un temps de paix et de fraternité, mais dans plusieurs endroits en Afrique, les chrétiens fêtent avec la peur au ventre. Cependant, en République centrafricaine, malgré l'insécurité qui persiste dans la capitale, les fidèles de Saint-Charles-Louanga de Bégoua ont pu commencer leur célébration dans la sérénité, une situation, chérubin, de loin différente de celle vécue il y a un an, quand environ 20 000 déplacés s'étaient réfugiés dans cette église catholique exposée à la menace des groupes armés.
Pour le révérend père Anissé Osibouyen Senganambi, curé de la paroisse que j'ai joint aujourd'hui, c'est une bénédiction du ciel.
Je me rappelle bien le 24 décembre 2013, à ce moment-ci, j'hébergeais 23 000 personnes ici. La température était chaude, on était entouré par des éléments armés, plus spécialement nos frères les Peuls qui nous menaçaient, qui tuaient. On a mené beaucoup de blessés, coups de machette, sagaies, blessés par balles. Et puis des coups de fusil partout. C'était la vraie peur. C'était la peur à des gens qui voulaient quitter même le lieu de déplacer. Mais un an après, même si le calme n'est pas totalement revenu sur la totalité de la République centrafricaine, au moins dans cette zone de Bégoua qui était la zone rouge, on est un peu mieux maintenant. Il y a encore des déplacés, mais les déplacés qui sont ici, ce ne sont pas les déplacés qui fuient les exactions, mais ce sont ceux qui sont victimes des désastres qu'ont causé nos frères armés, c'est-à-dire les familles dont les maisons ont été cassées, brûlées, tout pillées, ou qui n'ont pas de moyens pour aller louer des maisons.
Vous avez combien de personnes maintenant là-bas?
Pour le moment, nous avons 451 ménages, ça fait autour de 1000 déplacés. Mais vraiment, ils ne sont pas ici à cause de l'insécurité, ça, c'est pas vrai. Si dans Bangui, il y a encore des braquages, et à cause de l'insécurité dans certaines parties de Bangui, il faut avouer que Bégoua, même si elle n'est pas à 100% assurée, mais on sent quand même qu'il y a de la sécurité aujourd'hui et qu'il n'y a pas pour le moment un élément menaçant la vie de la population.
Et qu'est-ce qui a favorisé ce changement?
On avait peur parce que nos frères, quand ils étaient là, il y avait toujours une menace constante. Mais depuis qu'on les avait déplacés à l'intérieur du pays, en attendant le dialogue national qui aura lieu avant un éventuel retour, il n'y a pas une confrontation entre les forces rivales.
Je me souviens de ce que vous aviez dit l'année dernière à la Voix de l'Amérique, qu'il y a des victimes partout, il y a des douleurs profondes au sein de toutes les communautés et qu'au bout du compte, il va falloir vivre en paix comme cela se faisait avant. Et comment voyez-vous le processus de réconciliation?
C'est un long chemin, difficile mais pas impossible. Pour cela, nous devons accepter de rejeter nos erreurs du passé. Tout le monde s'est trompé. Les Sénégalais se sont trompés aussi. Les Antibalaka, en réagissant aussi, ont été à l'extrême. D'un côté comme de l'autre, il y a eu des pertes. Essayons de penser nos plaies communes. Nous sommes tous des Centrafricains. Le dialogue est possible si on accepte nos fautes communes.
Le révérend père Anissé Osibouyen Senganambi, curé de la paroisse Saint-Charles, Louanga de Bégoua, près de Bangui.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum se met à l'heure des fêtes ce jeudi 25 décembre. Au programme, une série de reportages entre rétrospective et prospective. Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h10.
Voilà, direction la RDC, un retour qui n'est pas passé inaperçu.
Celui de Moïse Katumbi, il est de retour dans le Katanga, Bagassi.
Oui, l'homme le plus riche de la RDC aurait des ambitions présidentielles et on en saura davantage dans les prochains jours. Ce soir, Chérubin, Narval Nabila nous parle de son retour.
Après 3 mois d'absence, sur fond des spéculations sur son état de santé et son avenir politique au sein de la majorité présidentielle, Moïse Katumbi, gouverneur du Katanga, est arrivé à Lubumbashi, comme annoncé le mardi à 12h17, heure locale, à l'aéroport international de la Luano. Alors que dans la matinée, une confusion a été constatée de la part de l'autorité urbaine, mobilisant et démobilisant le Louchois à partir de la radio et la télévision, avec un prétexte non dit, la présence dans la ville du président de la République, Joseph Kabila, qui est arrivé dans la soirée du lundi. Un Louchois nous relate les faits.
Nous, on nous a dit les rumeurs et nous avons fait des investigations sur le président de la République. Il a envoyé les éléments de la GR au niveau de l'aéroport, que les gens ne puissent pas partir là-bas. On sait ça mal, on ne comprend pas ce qui se passe, c'est quoi.
Malgré tout, il a parcouru toute la ville de Lubumbashi pour atteindre le centre-ville où il s'est adressé aux centaines de Louchois devant la grande place Moïse Tshombe en Swahili, ensemble avec le président de l'Assemblée provinciale, Antoine Gabriel Kyungwaku Mwanza, qui a demandé au président de la CENI, à l'abbé Apollinaire Malumalu, de publier le calendrier complet des élections. Et le message de Moïse Katumbi a été de remercier les centaines de Louchois qui sont venus l'accueillir, qui dépassent le nombre des habitants du Burkina Faso. Mais aussi, il a terminé avec une toute petite devinette à interpréter. Chaque Louchois donne son interprétation de la devinette.
En tant qu'un analyste de la politique du Katanga, je pense que les dés sont déjà jetés. Le discours du gouverneur est très clair et net. Moi, je pense qu'il n'y aura pas le troisième mandat pour le président de la République. Et Malumalu doit publier le calendrier officiel, même au niveau des élections présidentielles.
Il va postuler, il sera candidat à la présidentielle, d'où il est sûr de lui-même pour passer, hein, gagner les élections.
Tout semble être consommé. Le Katanga semble choisir la direction de Jean-Claude Muyambo Kiasa, Lubumbashi, Narval Mabila pour la Voix de l'Amérique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Cap maintenant sur la Côte d'Ivoire, où trois collaborateurs de l'ex-président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation sont dans les geôles de la police économique à Abidjan. Ils sont accusés de détournement de fonds publics. Avant leur arrestation, Arthur Aloko, l'un des accusés, ancien directeur général d'une structure de la place, a échangé avec notre correspondant Germain Dri.
Quelques jours après la remise du rapport de la CDVR par Charles Konabani et du dépôt de sa candidature à la présidence de la République, trois de ses collaborateurs font l'objet de poursuites judiciaires. Des poursuites qu'Arthur Aloko n'arrive pas à déterminer les sources. Selon Arthur Aloko, Oka Sylvain et Léon Kofi, l'avocat qui a répondu à la première convocation a été informé que trois chefs d'accusation pèsent sur eux. Notons que le jour de la remise du rapport, le chef de l'État a annoncé que les activités de la CDVR ont coûté 16 milliards de francs à l'État de Côte d'Ivoire. Germain Dri, Abidjan, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Voilà, le traité sur le commerce des armes entre en vigueur aujourd'hui, un mercredi 24 décembre 2014. C'est le tout premier traité du genre durement négocié l'an dernier sous les auspices des Nations Unies. Pour les organisations qui se sont battues ces 20 dernières années en faveur du texte, il s'agit d'une avancée historique pour les droits humains, y compris sur le continent africain, compte tenu des 500 000 personnes qui meurent chaque année à cause de ce commerce très peu réglementé. Les États-Unis, principal acteur du marché, ont signé le traité, mais ne l'ont pas encore ratifié. Pour en savoir davantage, Jacques Aristide s'est entretenu avec Lina Holgen. Elle est directrice des politiques à Oxfam Québec, membre de la coalition internationale Contrôler les armes.
C'est un pas énorme que la communauté internationale est en train de faire aujourd'hui. Je pense que nous allons vraiment vers un monde plus pacifique, un monde où les commerces des armes de quelques 95 milliards de dollars sera plus contrôlé et un monde où on va savoir qui est en train de recevoir les armes, qui est en train de les vendre. On va pouvoir avoir cette transparence dans ces commerces d'armes si nécessaire.
Concrètement, que va changer ce traité, notamment sur un continent comme l'Afrique?
On va savoir les pays qui sont les vendeurs des armes, les exportateurs d'armes, ils vont être obligés de dire à qui ils les vendent. Et les États qui vont les recevoir, ils vont devoir préciser quelle va être l'utilisation de ces armes. Ce que le traité fait, c'est d'arrêter que les armes soient envoyées dans les mauvais mains. Ça veut dire dans les mains de ceux qui sont les perpétrateurs des violations des droits humains, des violations des droits internationaux et humanitaires, et ça va empêcher aussi que les armes arrivent dans les mains de ceux qui les utilisent pour même contribuer à la violence faite aux femmes.
Qui va s'assurer de la mise en application de ce traité?
Les ultimes responsables de l'application de ce traité, c'est les États. Les États qui ont signé. On a aujourd'hui 129 États qui ont signé le traité. On a aussi aujourd'hui 60 pays qui ont ratifié, qui s'engagent à changer leur loi au niveau national pour s'assurer qu'ils vont respecter ce que le traité cherche à faire, puis ils vont être redevables entre les États. Et nous, en tant que société civile, nous avons le rôle aussi de regarder que les États vont respecter les règles de ce traité.
Voilà, c'était donc Lila Holguin, jointe à Oxfam Québec à Montréal au Canada.
C'est la veille de Noël, l'un des grands moments du calendrier chrétien. Roger Montou, dans notre page musique ce soir, est-ce qu'on est dans l'esprit de Noël?
Salut Gabi! La fête de Noël est un moment unique de partage et de convivialité en famille et en toute génération confondue. C'est l'occasion pour nous d'écouter D-Champ, un chanteur sierra-léonais dans Merry Christmas. Ce soir, la majorité des chrétiens va célébrer une messe traditionnellement à minuit ou en début de soirée. Et pour beaucoup, c'est habituellement au pied de l'arbre de Noël décoré que sont déposés les cadeaux. Hein. Donc vous passez chez moi ce soir, Gabi, un cadeau vous attend. Voilà Gabi, c'était D-Champ dans Merry Christmas, ou comme on dit en français, Joyeux Noël. Et bien sûr à tous nos auditeurs.
Merci Roger Muntou que nous retrouvons chaque soir à 20h temps universel dans le RM Show sur VOA Afrique. Merci Roger Montou, que l'on retrouve chaque soir à 20h temps universel dans le RM Show. À ne pas rater, surtout
je crois qu'il,
aujourd'hui.
Il fallait une caméra dans ce studio pour que les auditeurs voient que
c'est
vous êtes
la
déjà en
fin de cette
Noël.
Édition qui a été mise en œuvre par Michel Joseph, accompagné de Bill Barber à la présentation chez Romain Dorcy et Bagassi Koura. Happy Christmas, Minota.